7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les jeunes et la politique. Selon un sondage Opinionway, un jeune sur deux jugerait la campagne présidentielle en France pathétique. Alors comment comprendre ce désenchantement alors qu'ils sont les premiers concernés, les plus concernés par le grand sujet du moment, le chômage, qui les touche deux fois plus que la moyenne nationale. Entre résignation, abstention, frustration, où en sont les jeunes et la politique aujourd'hui? La question vaut bien sûr pour les jeunes électeurs, aussi sur le continent africain. À l'inverse de l'Europe vieillissante, eux sont largement majoritaires sur le plan démographique et bien sûr ils sont l'objet de toutes les attentions lors des campagnes. Mais ensuite, eh bien, les jeunes sont-ils dépolitisés ou aspirent-ils à une autre forme d'engagement politique et dans ce cas, lequel? Les voisins et les voisines, bien sûr, on attend vos points de vue et vos témoignages. Appelez-nous surtout dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Dans le studio, je reçois Amidou Anne. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 33 ans, je vais commencer par donner l'âge. Vous êtes sénégalais, vous vivez à Dakar, vous avez démissionné de la fonction publique après être passé par l'ENA au Sénégal et en France et avoir écrit pas mal de discours pour des politiques. Vous êtes aujourd'hui chroniqueur pour Le Monde Afrique et vous écrivez également pour le site de réflexion L'Afrique des idées. Vous faites partie de ces gens qui viennent sans avoir rien à vendre et ça fait toujours plaisir. Léonore de Roquefeuille, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 29 ans, cofondatrice de Vox. Alors vous avez quelque chose à vendre. C'est une initiative citoyenne pour informer les jeunes à politique. Vraiment?
Oui, tout à fait neutre.
Vous êtes également présent dans certains pays du continent africain?
Oui, on est présent au Bénin et au Mali. Et ainsi qu'en Côte d'Ivoire d'ailleurs.
Christophe Nick devrait nous rejoindre dans le studio. Il est co-auteur, co-producteur de Génération Watt, une enquête à travers le monde qui pousse les jeunes à faire l'autoportrait de leur génération en 150 questions. Voilà, vous nous appelez 33 1 84 22 71 71. Les jeunes et la politique. Alors il y a bien sûr les désenchantés et les autres. Louba Amundu au Tchad nous dit que les jeunes tchadiens suivent avec intérêt la présidentielle en France. D'abord parce que l'on pense que la France a une influence sur ce qui peut se passer ici, mais aussi parce qu'elle fait figure d'exemple démocratique. Alors qu'au Tchad, nous dit Louba, on ne laisse que très peu de place aux jeunes pour s'exprimer. Eugène à Cotonou, lui aussi assez positif. Au Bénin, la manière de faire de la politique est parfois contestable. Les jeunes français ne devraient pas déplorer leur système dans lequel ils peuvent s'exprimer facilement. Ici, chez nous, les jeunes sont manipulés politiquement. Fayala, lui, est à Conakry, en Guinée. Il nous dit que la politique, c'est l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois en Guinée. Alors, les jeunes, évidemment, veulent en faire. Je vois sourire à Midouane. Ils n'y croient que très peu, mais ils n'ont pas d'autre alternative. Vous qui avez abandonné en partie un métier inspiré par la politique dans la fonction publique.
Oui, si tu veux, c'est une question de double intérêt. Les politiciens ont un intérêt vis-à-vis de la jeunesse parce qu'ils ont besoin naturellement de suffrage. Alors que les jeunes, si tu veux, en Afrique, donc la question du chômage, la question du désœuvrement. Et on voit les politiciens qui s'enrichissent au bout de 5 ans, au bout de 8 ans, au bout de 10 ans. Enfin, un monsieur qui n'avait pas grand-chose devient quand même un millionnaire. Donc, du coup, la politique devient rentable. Et les jeunes, parfois, se disent, bah écoute, on est diplômé, on n'a pas d'emploi, on est précaire, donc pourquoi pas se lancer dans la politique qui est effectivement un moyen pour se faire de l'argent assez rapidement, pour se faire une forme de renommée.
Dans certains partis, dans certains pays, certains partis n'hésitent pas aussi à payer des jeunes pour aller manifester.
Oui, complètement. Parce qu'en fait,
c'est le cas au Sénégal encore ou plus?
Oui, bien sûr, c'est une pratique courante chez les hommes politiques en Afrique et le Sénégal n'est pas en reste parce que les politiques ont du mal à mobiliser sur une base programmatique, sur une base idéale et sur un socle de valeurs. Donc pour mobiliser, pour attirer des gens dans des manifestations, dans des initiatives politiques, dans des meetings, on est obligé souvent de payer le transport, de payer le t-shirt ou parfois de donner un billet pour pouvoir remplir une salle parce que leur discours ne porte plus, parce que il y a une cassure entre les politiques et la jeunesse, c'est des gens qui ne se comprennent pas, qui ne se parlent pas. Donc les politiciens se parlent entre eux et parfois, au bout de 5 années ou 7 années, selon les mandatures dans les pays, se rendre compte qu'ils ont quand même besoin d'une forme de caution populaire pour être élus et là, mettre en branle l'artillerie lourde en payant,
alors,
en mobilisant les
jeunes.
Peut-on
encore séduire vraiment les jeunes avec un t-shirt? J'en doute.
Enfin, Oui et non. Enfin, les séduire, non, mais c'est un jeu de dupe, comme je l'ai dit au début. On se rend compte que le politicien a besoin de nous. Donc, nous, on a besoin d'un billet, de 5 000, de t-shirts et de participer à une manifestation qui est plus ou moins sympa. Donc, on y va. C'est un jeu de dupe. Hein, et tout le monde a compris, mais tout le monde fait semblant de ne rien voir.
Alors, Wally s'est à Lomé au Togo et il nous dit la politique est une grosse arnaque. Je n'y adhère plus. Il faut vraiment être naïf pour continuer à y croire. Gilda Saboaké, dans le nord de la Côte d'Ivoire, écrit ceci. Chez nous, les politiques ne représentent rien de nouveau. Les bilans sont négatifs. Pourquoi les jeunes devraient-ils encore aller voter et s'y intéresser ? Encore Massala, qui est à Brazzaville, au Congo-Brazza. La politique fait peur aux jeunes qui hésitent à s'engager. On s'expose à des risques. Autant éviter. Là, il parle clairement de l'emprisonnement. Brice à Yaoundé, au Cameroun. La politique n'est souvent que source de déception pour les jeunes qui s'y engagent. Appelez-nous maintenant pour discuter avec nous de vive voix et avec nos invités. 33 1 84 22 71 71. Thomas est au standard, il recueille vos témoignages. Mais tout de suite, retour sur la manifestation de la semaine dernière en France, des lycéens entre les deux tours de l'élection présidentielle. Le mot d'ordre était ni patrie, ni patron. On les écoute tout de suite.
C'est les banques contre les nazis en fait. Donc,
bon. Non, mais c'est pas les banques contre les nazis, c'est juste. C'est rejeter déjà le néolibéralisme qui un peu nous mène dans la merde depuis quelques dizaines d'années.
Bah, nous on manifestait pour montrer que le FN n'y passera pas et qu'on les laissera pas passer quoi qu'il arrive quoi.
Macron c'est le moins pire des deux quoi.
S'il y a une énorme abstention, Marine Le Pen peut passer parce que c'est. Les gens qui votent pour elle, bah, ils sont vraiment déterminés, si je puis dire. Si le FN passe, je vais plus en cours. Du tout, je bloque tout le temps. Je vais en manif tout le temps, je me donne toute ma vie à ça, je veux vraiment pas que le FN passe, vraiment.
Alors derrière un petit noyau dur de lycéens, alors militants ou agités, on emploiera le mot que l'on veut, en tout cas protestataires, que pensent les étudiants ? Alice Milo est allée à la rencontre des plus jeunes en première, en deuxième année de l'université de Tolbiac, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dans le 13e arrondissement de Paris.
Je sais déjà que je ne vais pas voter blanc parce que voter blanc, je considère que c'est laisser les autres choisir pour nous. Parce qu'en fait, au premier tour, j'avais voté François Fillon. Bon, parce que après avoir feuilleté les programmes des différents candidats, j'ai trouvé que c'était le programme le plus solide économiquement et puis même socialement. Hein. Et surtout le plus réaliste. Là, on est sur Macron vs Le Pen. C'est pas mes candidats préférés, mais bon, aujourd'hui, on doit faire un choix. Ce que je préfère chez Marine Le Pen, moi, par exemple, c'est plus... j'allais dire dans le social, c'est-à-dire je la sens plus proche en fait des préoccupations des Français, surtout par exemple les gens qui vivent dans la campagne, dans les régions rurales, je la sens vraiment
concernée,
surtout aussi chez la classe ouvrière. Après, le reproche que je donnerais comme tout le monde hein, à Macron, c'est d'être vraiment quelqu'un de capitaliste, vraiment un gars du système comme on dit.
Les accusations de discours xénophobes de Marine Le Pen du Front National vous dérangent pas? En plus, je tiens à préciser, puisqu'on est à la radio, que vous êtes des étudiants de la diversité, comme on dit. Hein.
Marine Le Pen, c'est une candidate très diabolisée par les médias et puis par les politiques. Et c'est vrai que, je suis curieux et puis j'ai envie de voir ce qu'elle est capable de faire. Comme parce qu'on a déjà vu auparavant que ni la droite ni la gauche n'a vraiment fonctionné. Alors, l'extrême droite, j'ai envie de dire, pourquoi pas.
Pour moi, c'est compliqué. J'ai voté Mélenchon au premier tour. Et donc Marine Le Pen, c'est sûr que non, jamais, parce que c'est des idéaux qui me conviennent absolument pas, je pense, comme beaucoup de personnes qui ont voté Mélenchon. Et je pense que je vais voter Macron. Je suis soulagée parce que je vote pas réellement, je vote par procuration, donc moi j'ai pas l'impression de le faire réellement en fait, mais j'aurais vraiment eu du mal à mettre Macron dans une enveloppe et à aller voter pour ça. Je vais demander quand même à ma mère de voter Macron, ouais.
Et alors pourquoi ? Parce que finalement vous aviez d'autres choix, vous auriez pu aussi voter blanc ou vous abstenir.
Parce que je veux vraiment pas que Marine Le Pen passe. Pour moi, c'est 5 ans de plus avec le système qu'on a, c'est possible. Mais 5 ans avec Marine Le Pen, avec quelqu'un qui ne respecte même pas les... Pour moi, la dignité humaine, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et je peux pas.
En tout cas, nous, on n'a pas voté Mélenchon par vote protestataire. On s'est vraiment intéressé au programme, on s'est intéressé aux idées. Je pense qu'il faut arrêter l'idée que les jeunes vont voter plutôt à gauche, voire extrême gauche, par contestation, c'est faux. Moi, je sais que, par exemple, je suis absolument pas pour que Marine passe. Et pourtant, je vais pas aller voter Macron. J'irai voter blanc parce que je trouve que c'est important de voter. Le vote blanc, ça représente aussi le fait qu'on est contre le choix qui nous est proposé. J'ai peur que les gens s'endorment après en disant qu'on a échappé au pire, alors on va faire avec et puis c'est tout. Et moi, ça me va pas du tout et je veux pas faire avec. Et je veux faire avec ni l'un ni l'autre.
mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent qu'avec ce discours-là, vous prenez le risque de mettre Marine Le Pen au pouvoir alors? J'imagine qu'on doit vous le dire tous les jours ces derniers temps.
Tout à fait. Il y a en plus un discours très très culpabilisant sur les gens qui veulent voter blanc et s'abstenir. Mais en même temps, les abstentionnistes sont le premier parti de France. Hein. Mais j'ai envie de vous dire que qu'elle passe, qu'on voit ce que ça donne et que les gens voient qu'elle n'est pas une solution. Et peut-être que là, ça fera réfléchir les gens. Si ça se trouve, il y aura 2 millions de personnes dans la rue le 9 mai et ce sera très bien.
Les candidats ne parlent pas des jeunes. Et c'est vraiment rarement.
Quand on regarde le système des bourses proposé par le CROUS, c'est indécent. Comment vous voulez qu'un jeune à Paris puisse vivre avec... tu gagnes combien de ta bourse par mois, toi?
150.
150 euros? Mais c'est absurde, ils sont déconnectés vraiment. Et ça, c'est malheureux parce que je pense qu'il faudrait réussir à sortir de cette image qu'on a des jeunes ils s'en foutent de tout, ils sont pas intéressés par la politique. C'est faux. On a des problèmes, on veut trouver des réponses. Et c'est vraiment malheureux qu'on renvoie cette image-là. Et c'est peut-être justement pour ça qu'au final, les politiques nous parlent pas tant que ça. Ou en tout cas, pas des bonnes choses et pas correctement. Le discours de Macron, moi je gagnais 1000 euros par mois quand j'étais étudiant, mais 1000 euros par mois, il faut se rendre compte que pour nous c'est énorme.
J'ai un loyer qui coûte 420 euros.
Le prix des livres, on n'est plus au lycée, donc les livres ils ne sont plus prêtés.
Les politiques aujourd'hui n'ont pas l'air de voir cette réalité des choses, c'est on compte chaque centime.
Et en plus, il faut prendre en compte qu'il y a des étudiants qui sont obligés de travailler à côté et on n'en parle pas.
Alors, que vous inspire Léonore de Roquefeuille et Amy Douane et Christophe Nick qui vient de nous rejoindre, ces témoignages de jeunes étudiants, Léonore de Roquefeuille?
C'est assez intéressant parce que tout à l'heure, Amidou disait qu'en Afrique, on s'adressait souvent à la jeunesse dans les scrutins électoraux. Et en fait, ce qui est assez clair, c'est que pour cette campagne, on a très peu parlé de jeunesse. Alors, c'était probablement pour éviter l'écueil de la campagne de François Hollande en 2012 et de ces très nombreuses promesses sur la jeunesse qui ont déçu. Mais en tout cas, la jeunesse n'a pas été ni un sujet de campagne, ni vraiment un public de campagne, sauf par effectivement le candidat Jean-Luc Mélenchon, qui a très bien su adresser la jeunesse. C'est quand même déjà le premier youtubeur politique.
Des candidats, d'ailleurs.
Tout à fait, mais ça a été il a été capable de s'emparer des outils, d'avoir une relation qui paraissait authentique, sincère, et qui utilisait très bien les outils numériques, comme donc c'est le premier youtubeur politique d'Occident. C'est quand même pas mal.
Il faut le préciser, Mélenchon était le candidat au premier tour qui a le plus rassemblé le vote des 18-34 ans.
Derrière l'abstention.
Oui, derrière l'abstention, effectivement. L'abstention est largement le double de la moyenne nationale chez les 18-34 ans. Mais sinon, c'est effectivement Mélenchon qui a le mieux capitalisé les jeunes votants. Ensuite, Emmanuel Macron. Et ensuite, Marine Le Pen qui arrive en troisième position derrière Emmanuel Macron. Contrairement d'ailleurs au discours du Front National qui laisse entendre que c'est un parti de jeunes. Certes, c'est un parti qui admet beaucoup de jeunes, mais ce n'est pas pour autant que c'est un parti qui capte
le vote des jeunes. C'est un parti qui revendique le plus nombreux adhésions sur les jeunes avec le Front National. Je crois qu'ils sont, ils revendiquent 25 000 adhérents. Pour vous donner une idée, le Parti Socialiste, c'est un peu moins de 10 000 adhérents revendiqués. Donc, si c'est vrai, c'est énorme.
Sur le vote protestataire à Midouane, on sent aussi un énervement, refus d'être infantilisé aussi.
Oui, complètement. Et ce qui est drôle dans cette campagne française, c'est que tout le monde s'est revendiqué quasiment anti-système. Enfin, des gens qui ont fait de la politique depuis 30 ans, qui n'ont jamais travaillé, qui étaient sénateurs, qui ont tout eu, enfin en tout cas dans le poste politique, sont revendiqués anti-système. Mais et le vote des jeunes et leur comportement montrent quelque chose d'intéressant. C'est que c'est des gens intelligents, c'est des gens, quand on leur parle, quand on leur adresse un discours comme Léonore l'a dit, savent le recevoir et savent agir en conséquence. Donc du coup, le vote, l'adhésion des jeunes, enfin en tout cas de cet électorat jeune vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, est quelque chose de très intéressant à analyser parce qu'ils revendiquent deux, ils montrent deux choses. Un, il y a un ras-le-bol de ce qu'on appelle le système, de comment la France est gouvernée depuis l'après-guerre, et qui s'est caractérisé par un effondrement des deux partis classiques, de gauche et de droite. Et Jean-Luc Mélenchon a réussi à agréger en fait tout ce mécontentement, toutes ces protestations vis-à-vis du système, et a construit un discours derrière qui a parlé aux étudiants, qui a parlé aux intellos précaires, comme le rappelle souvent.
Est-ce que
le
vous voyez une résonance avec autre chose au Sénégal ou pas?
Difficilement en termes de politique traditionnelle, en termes de parti politique, en termes de message, en termes de structure, mais en termes de mouvement, il y a quelque chose qui est qui est né en Afrique depuis 6-7 ans, qui est né au Sénégal d'ailleurs, le mouvement Yanama,
voilà, qui est un
mouvement
qui est né
suite à la décision d'Abdoulaye Wade, le précédent président sénégalais, d'avoir un troisième mandat alors que constitutionnellement il n'avait pas le droit. Donc le mouvement s'est structuré pour dire non. Et ça a fait tache d'huile, finalement, ça a fait une résonance dans plusieurs pays, notamment le Burkina Faso.
Avec le balai citoyen.
Qui a
obtenu, Et Filimbi en RDC.
Et pour s'arrêter sur le balai citoyen, ils ont obtenu le départ de Blaise Compaoré, qui dirigeait le pays pendant quand même 30 ans. Alors, c'est important parce qu'il casse les codes en termes de politique traditionnelle. Aujourd'hui, c'est un discours porté par des jeunes, souvent des gens issus d'ailleurs de la culture urbaine, des rappeurs, mais avec une critique. Que j'aimais parfois à leur endroit, et j'en ai rencontré plein, et je porte toujours le même discours. La contestation est une chose, mais la construction d'un projet alternatif en est une autre. Et moi, aujourd'hui, on me dira que c'est un peu tôt, on me dira que oui, on joue le rôle de sentinelle, mais je ne pense pas aujourd'hui que le rôle de sentinelle suffise. Il faut porter un projet émancipateur qui puisse agréger les suffrages des jeunes.
Quand on parle d'un mouvement politique, de dire que c'est un mouvement jeune en Afrique, c'est un peu un pléonasme. Dès que quelque chose naît en Afrique, c'est forcément jeune, de toute façon, puisque plus de la moitié de la population a moins de 35 ans.
Oui, totalement. Et c'est ça qui est le paradoxe en Afrique, c'est que effectivement, la majorité de la population est jeune, mais ne voit pas ses préoccupations entendues et relayées par les politiques traditionnelles. Et en fait, et dans ce mécontentement, est né aujourd'hui des mouvements comme le Balai Citoyen que vous citiez, comme Filimbi, comme Yanamar, comme Lucha, mais qui n'arrivent pas encore à agréger les jeunes parce qu'ils ne portent pas de projet. Ils ne portent pas de socle idéal et programmatique.
Christophe Nick, vous, comment vous réagissez au témoignage de ces jeunes étudiants qu'on vient d'entendre? On a entendu aussi juste avant la manifestation des lycéens, ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron, ce refus, ce ni-ni.
Oh mon Dieu, si je vous disais que pour moi c'est effrayant, voilà, je ferais vieux con, mais c'est absolument effrayant. Bon, alors en même temps.
Vous voulez dire qu'on est très très jeune de la mobilisation de 2002, notamment où les jeunes s'étaient beaucoup mobilisés pour faire barrage au Front National en France ?
Eh oui, parce qu'il y a une immense confusion.
Les syndicats étudiants à l'époque.
Il y a une immense confusion entre la colère. Voilà, qui est mesuré, qui est réel. Quand on a fait Generation What, on ne soupçonnait pas que c'était à ce point-là.
Donc une enquête à travers le monde pour pousser les jeunes à faire leur autoportrait. Hein.
Voilà, et donc on voit qu'en France, 70% des jeunes seraient prêts à participer à un mouvement de type mai 68. On se rend compte aussi qu'il n'y a plus aucune confiance en aucune institution, si ce n'est les ONG. Voilà, mais on parle à 90%. Hein, sur les médias, sur les organisations religieuses, sur les partis politiques, il n'y a aucune confiance. Et ce qui est peut-être encore plus grave, c'est qu'il n'y a plus confiance dans l'appareil d'État. C'est-à-dire que ce soit l'école, la justice, la police, toutes ces institutions sont totalement rejetées. Donc il y a comme... Voilà, j'ai l'habitude de dire que c'est la génération la plus éduquée de tous les temps. Ce qui est vrai. Par rapport à la mienne, ils font 4 ans d'études supérieures en plus par rapport à nous. Bon, ce qui
et
veut
qui,
pas dire
qu'ils aiment s'informer aussi.
Oui, ce qui veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, mais qu'ils sont beaucoup plus critiques. Voilà, ils sont armés pour être critiques, etc. Et donc, ils ne croient plus, mais plus du tout, dans le système dans lequel on est. Et n'y croyant plus, il y a comme un espèce de nivellement, voire même de désir de catastrophe, qui est quelque chose d'assez stupéfiant et de désespérant. C'est-à-dire qu'après tout, si c'est Marine Le Pen, ce sera Marine Le Pen. Voilà, on n'a jamais vu un pays qui laisse l'extrême droite arriver au pouvoir ne pas s'en sortir sans guerre civile. Bon, et a priori, c'est pas ce qui fait le plus peur. Donc on en est là, voilà. Cette cassure générationnelle, elle est hyper forte.
Renverser la table à tout prix, finalement.
Mais au prix de la perte de liberté, voilà, pour se battre pour de vrai.
Alors, nous allons donner aussi la parole à un auditeur. Herman, vous êtes au téléphone avec nous, vous êtes à Toulouse.
Oui, bonjour Emmanuel.
Herman, vous êtes un étudiant, je précise, vous êtes un étudiant d'origine, vous êtes burkinabé, hein, vous êtes étudiant burkinabé en France, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, c'est ça.
Herman, vous allez rester en ligne avec nous parce que nous allons rendre l'antenne toujours au moment le plus passionnant de l'émission, mais pour le flash, priorité à l'info. Nous allons nous retrouver dans un tout petit peu plus de 3 minutes. Les jeunes et la politique, bien sûr, vous nous appelez où que vous soyez dans le monde. On croise différentes analyses avec Amidouane, Léonore de Roquefeuille et Christophe Nick. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Dites-nous pourquoi la politique vous intéresse encore ou pas du tout. À tout de suite.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI en direct du lundi au vendredi. Nous parlons des jeunes, où en sont-ils avec la politique entre résignation, abstention, frustration? Les jeunes sont-ils dépolitisés ou aspirent-ils à une autre forme d'engagement politique? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 autour de la table dans le studio des 7 milliards de voisins. Nos invités, Léonore de Roquefeuille, 29 ans, cofondatrice de Vox, une initiative citoyenne pour informer les jeunes. Et pas que en France d'ailleurs, vous nous disiez que vous êtes maintenant présent au Mali et au Bénin, hein, c'est ça ?
Et en Côte d'Ivoire.
Et en Côte d'Ivoire. Ami Doane, vous êtes de passage à Paris, chroniqueur pour Le Monde Afrique et auteur pour L'Afrique des idées. Et Christophe Nick, co-auteur, co-producteur de Génération What, une enquête qui était d'abord à travers l'Europe et qui pousse les jeunes à faire leur autoportrait en 150 questions. Et puis maintenant, vous allez pousser le projet au-delà, en Afrique du Nord, au Maghreb et puis plus tard en Asie. Nous reprenons notre auditeur Herman en direct de Toulouse. Rebonjour Herman.
Bonjour Emmanuel. Écoutez, moi je pense que ce qu'il faut dire est que une jeunesse qui a mal à se loger, une jeunesse qui tombe de plus en plus dans le chômage et dans la dépression n'est pas une jeunesse apte à s'intéresser à la politique. Quand on sait que ce sont ces mêmes politiques et politiciens qui promettent de trouver des solutions à ces préoccupations de la jeunesse. Je pense qu'il y a trois principales raisons qui expliquent le désintéressement de la jeunesse par rapport à la politique en France. Tout d'abord, il y a que ces politiques incarnent moins les préoccupations réelles de ces jeunes. Il suffit de faire un tour dans nos universités et vous verrez comment sont tenus ces étudiants à cumuler deux, trois, souvent quatre boulots pour pouvoir s'accrocher.
Vous parlez de votre pays, le Burkina Faso, là, Herman, et non pas du pays où vous étudiez, la France.
Je parle même en France, ici, parce que je vis avec des étudiants français ici, avec également des étrangers, et c'est pratiquement cette routine qui se passe par rapport au boulot et les études.
Donc finalement, ce sont les difficultés matérielles qui expliqueraient une forme de désengagement des jeunes.
Oui, c'est ça. Ensuite, c'est pas ça seulement. Ensuite, nous les jeunes, on a l'impression aujourd'hui que la politique est inaccessible. L'impression qu'il faut militer 30 ans dans un parti pour espérer voir ses idées être prises en compte. Certains partis en France ici laissent croire même à la jeunesse que la politique est une question d'héritage. Troisièmement, j'allais dire que la classe politique actuelle n'est pas suffisamment exemplaire pour inspirer la jeunesse. Pour le constater, il suffit de s'inviter dans les débats sur les chaînes politiques et vous verrez que la politique n'est plus une question d'idées, mais plutôt un terrain pour des règlements de compte, un terrain pour des dénigrements sans de véritables propositions. Bref, un terrain pour s'envoyer, entre guillemets, je dirais, des missiles. Et c'est ça qui fait peur à la jeunesse. C'est tout ça là qui démotive la jeunesse. Et vous pouvez bien le constater à travers les taux d'abstention au vote qui s'augmente de scrutin en scrutin. Par exemple, en France, en 2012, on avait 20,52% d'abstention au premier tour. En 2017, on en a eu 22 au premier tour. Et cette augmentation pourrait être pire au second tour. Et même dans les années à venir, si les politiques ne changent pas.
Vous avez l'air de... Quand même, vous êtes étudiant en génie civil et géotechnique, vous avez l'air tout de même de pas mal vous intéresser, vous, à la politique, Herman, hein?
Et oui, je dirais que je connais autant la politique de mon pays que celle de la France, que je me suis intéressé il y a depuis quelques années.
Merci beaucoup de nous avoir appelés. Très bonne journée à Toulouse. Qui veut réagir ?
Oui, non, mais il a raison, entièrement raison. Avec une autre dimension, il y a effectivement la façon de vivre et de survivre en France qui est tragique pour la jeunesse, hein. Bon, c'est clair. Mais il y a aussi de voir quelles sont les aspirations, voilà, quelles sont les préoccupations des jeunes. On a été stupéfait de voir dans Generation What que la première des préoccupations, c'était l'environnement, avant même la recherche d'emploi. Et c'est vrai que Mélenchon a réussi à allier le social et l'écologie comme une espèce d'espérance. À partir du moment où il n'est plus là, il y a une démission absolue. Puisqu'il n'y a plus cette offre, alors on s'en fout complètement. Ça, c'est pas la majorité, mais il y a tout d'un coup un risque qui apparaît, qui fait que l'essentiel absolu s'effondre derrière des revendications du moment. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un choix entre la République ou Pétain. Toute cette génération sait très bien ce que ça veut dire. Elle a suffisamment jugé les ancêtres pour être lucide là-dessus. Et bien, confrontée à ce choix, elle peut prendre le risque de Pétain.
J'entendais hier un jeune de 18 ans dire « Trouver ma place dans cette société, c'est l'épreuve de toute une vie ». Est-ce que finalement le malaise psychique des jeunes n'est pas profondément sous-estimé à l'échelle des individus, Éléonore de Roquefeuille ?
En fait, moi, je pense que le malaise que décrivait très bien Herman, notamment quand il a dit « En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que je ne peux pas m'impliquer en politique, qu'il me faut 30 ans à monter les échelons un à un, etc. » En fait, ce malaise, il est pas présent que chez les jeunes. Ce malaise, il est très largement présent dans la population et l'abstention ne touche pas que la jeunesse. Alors certes, elle touche la jeunesse, peut-être parce qu'effectivement, on est une génération plus critique, on est une génération plus éduquée, et on n'a pas envie en fait de se faire prendre au jeu de dupe dont tu parlais au début, Amidou. En fait, je pense que cette crise, il faut la regarder bien avec le prisme de la crise de la démocratie. En réalité, ça fait des centaines d'années qu'on fait de la démocratie de la même façon, alors qu'on n'est plus du tout les mêmes personnes. On est ultra connectés, on est ultra intéressés, parce qu'on a quand même 70% des jeunes qui s'intéressent au débat public, qui en parlent. Et à côté, on a l'impression de toujours ne rien pouvoir faire, parce que ces institutions, elles n'ont pas changé depuis plusieurs centaines d'années. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que ce moment, c'est un vrai moment d'opportunité, en fait. On a des jeunes qui s'intéressent, qui ont envie de faire quelque chose, qui s'engagent de milliards de façons différentes, qui ne sont plus uniquement par le vote, et on le voit bien, parce qu'ils n'ont plus envie de jouer à ce jeu-là, et qu'ils ont envie de s'engager d'autres façons. Ils s'engagent dans des associations, ils s'engagent via notamment l'entrepreneuriat social, mais aussi l'économie collaborative, c'est une forme d'engagement. Et aujourd'hui, on est dans un moment
les blogueurs
où on est prêt
et tous les influents de la twittosphère.
Tout à fait,
hein,
on est prêt à commencer à réfléchir, je pense, à un projet construit, comment, de là où on veut aller. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ça qu'il faut aider la jeunesse à faire.
Amidouane.
Christophe a dit quelque chose tout à l'heure d'important, il a insisté là-dessus, c'est aujourd'hui cette alternative, la République ou Pétain, finalement, c'est pas très grave, laissons... Enfin, voilà. Mais je pense qu'on risque de reprocher aux jeunes quelque chose qui n'est pas de leur faute. Ça fait 15 ans dans ce pays, moi je parle de la France, où les médias et les politiques font monter le Front National au quotidien. On normalise le Front National dans les médias, on les invite partout.
Et des et ça, classes, ce ne sont pas les jeunes qui l'ont fait.
La classe politique de droite comme de gauche a fait le jeu du Front National depuis 2007. Depuis la création du ministère de l'Identité nationale, la droite fait le jeu du Front National. On a entendu des choses hallucinantes sur la hiérarchie, sur les civilisations de Claude Guéant, sur le ministère de l'Identité nationale, et récemment sur la Bamboula. C'est quand même sous un gouvernement de gauche qu'on a décidé, voilà, qu'on va mettre en place une loi pour la déchéance de nationalité, etc. Et c'est sous un gouvernement de gauche qu'on a déshabillé, qu'on a demandé à une femme sur une plage de France de se déshabiller ou de quitter la plage.
L'affaire du Burkini l'été dernier.
On revient quand même dans un pays qui est la France, le pays de Balzac, de Mauriac, de Camus, où sur un été, on parle quand même du Burkini. C'est quand même hallucinant. Et derrière, en 2017, élection, et tout le monde fait semblant d'être surpris de voir le Front National à 21%, que voilà, c'est grave, etc. Et il se passe quelque chose de très inquiétant, voire de très glaçant. La manif hier à la République, sur la place de la République, n'a pas mobilisé grand monde, parce qu'aujourd'hui, c'est limite, le Front National est normalisé et c'est normal. Et du coup, et là, on reproche, on dit aux jeunes, ils s'abstiennent, ils votent pour les extrêmes, etc.
Ce malaise, on le retrouve dans d'autres pays, Christophe Nick, avec votre enquête Génération Watt. Qu'est-ce que vous observez comme constante d'un pays à l'autre? Vous disiez, Jean-Luc Mélenchon est parvenu à capitaliser finalement une envie, un désir des jeunes, de plus de justice sociale et d'intérêt pour l'environnement. Est-ce que c'est constante, cet intérêt-là, on le retrouve dans cette même génération, dans d'autres lieux géographiques?
C'est pas crispé comme ça. On voit bien que toute l'Europe du Nord, de l'Allemagne et de la Belgique flamande, jusque tout en haut, les choses sont quand même beaucoup plus mesurées. La confiance dans le système est quand même beaucoup plus forte. La France a un taux de colère et de désespérance qui... Il y a un seul autre pays qui le partage, c'est la Grèce. Voilà. Ce qui est assez, en même temps, irrationnel. Si vous vous posez la question qui est, est-ce que vous pensez que les hommes politiques sont corrompus, la France, c'est 99%. Voilà. En Italie, on n'est même pas à 50%.
Donc il y a une perception,
du réel.
Donc, un ébranlement par rapport à la solidité relative du pays, tout de même.
Oui, oui,
dans
oui.
Dans les mentalités des jeunes.
C'est effectivement, et c'est ça qui est très inquiétant.
Donc les
jeunes
sont exagérément pessimistes.
Alors, ils sont en même temps très optimistes pour eux-mêmes. C'est un très grand paradoxe. C'est ce qui peut expliquer cette contradiction.
Je vais m'en sortir dans cette merde, c'est ça, sous-entendu.
Oui, absolument. C'est-à-dire que moi, je crois en moi. Et moi, je vais y arriver. Donc, il y a un grand optimisme et une énorme énergie, mais qui ne passe plus du tout par le cadre commun sociétal.
Oui. Alors, pessimisme, défiance et en même temps l'âge de tous les possibles. Et puis aussi globalisation et volonté d'agir localement. On a quand même une impression que les jeunes courent après une forme de syncrétisme assez curieuse. Mais bien sûr, on va y revenir. Un auditeur nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec Noël. Bonjour Noël.
Bonjour Emmanuel.
Vous nous appelez de Moundou, au Tchad. Vous avez 21 ans vous-même.
Oui, je vous appelle de Moundou au Tchad.
Oui, vous êtes en direct, Noël.
Ok, comme je disais tantôt, les jeunes tchadiens se désolidarisent de la politique du fait que faire la politique ici est risquant ou trop dangereux. S'engager dans la politique sans risque au Tchad, c'est s'engager comme militant du parti au pouvoir, l'IMPES. Or, nous les jeunes avions ras-le-bol du IMPES qui a déçu l'espoir de tout un peuple pendant 26 ans de pouvoir en plongeant le pays dans une crise socio-économique et politique sans précédent actuellement. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que les jeunes tchadiens ne s'intéressent pas à la politique.
Oui.
La preuve en est qu'à l'amphithéâtre, à la cantine, dans le bus ou même au cabaret et partout, les jeunes discutent politique. Ils sont inquiets de l'avenir de ce pays qui est leur propre avenir.
Ouais. Mais alors justement,
mais ils ont peur de s'engager en même temps dans la politique, de peur de perdre leur vie comme les autres qui en ont payé le frais pour leur militantisme actif.
Ouais. Et ils ne sont plus prêts aujourd'hui à prendre ce risque corporel-là, finalement.
Justement, la preuve en est qu'actuellement, il y a des militants du mouvement IINA, les jeunes Nadio Kaina et Bertrand Solo qui sont actuellement en prison. Et donc, ce climat d'hostilité décourage les jeunes qui préfèrent regarder la politique passivement de loin.
De loin, sur les réseaux sociaux et sur Internet. Merci beaucoup Noël de nous avoir appelé, parce que c'est bien de porter la voix des jeunes pour ceux qui pourraient imaginer qu'ils sont désengagés ou silencieux. On ne peut pas franchement les blâmer d'avoir cette trouille-là dans un contexte aussi particulier à Midouane.
Effectivement, Noël a raison, mais toute proportion gardée, les contextes sont différents. Peut-être que le contexte du Tchad n'est pas le même que le Sénégal, ou celui du Sénégal n'est pas le même que celui de la Côte d'Ivoire ou du Mali. Il y a deux choses pour moi clair et essentiel quand on écoute Noël et l'auditeur précédent, c'est effectivement cette hésitation, ce refus de s'engager. On parle de politique dans les cantines, dans les cafés, dans les maquis, mais on dit, c'est souvent pour dire ils sont tous pareils, de toutes les façons ils sont tous corrompus, rien ne changera. Et il y a un indice où il y a des faits qui légitiment finalement cette attitude-là. Le premier, c'est qu'en fait depuis 1960, les dates de l'indépendance de la majorité des pays d'Afrique, on retrouve jusqu'à présent finalement la même classe politique. C'est les mêmes qui étaient les pères des indépendances dans nos pays, enfin, au Zimbabwe, Robert Mugabe, au Tchad, dans d'autres pays. Et c'est la même élite politique. Et finalement, elle est juste interchangeable. C'est-à-dire que même quand un pouvoir perd, quand un régime perd au profit d'un autre, souvent les mêmes changent de camp, qui ont perdu changent de camp pour se retrouver dans la nouvelle majorité. Et il y a même un terme pour dire ça au Sénégal, ça s'appelle la transhumance politique. C'est-à-dire qu'il y a un caractère interchangeable à la classe politique et c'est les mêmes.
Mais vous, quand vous étiez dans les cabinets ministériels, puisque vous avez été un jeune diplômé dans les cabinets ministériels au Sénégal, comment vous étiez perçu en tant que jeune ?
Ah, difficilement.
Vous faites beaucoup plus jeune que votre âge.
Oui, ça m'a valu quelques soucis parfois très drôles, mais bon, c'est anecdotique. Mais de façon générale, j'ai eu beaucoup de soucis déjà à me à m'imposer dans les postes que j'ai eus, parce que souvent c'est des postes où on atterrissait quand même au bout d'un certain, âge. Donc moi, après l'ENA, je débarque fraîchement comme conseiller du ministre des Affaires étrangères, et j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de critiques, parfois une vague de protestations de certains des cadres du ministère. Certains ont même échangé des mails pour organiser la résistance, etc. Et mon directeur de cabinet de l'époque...
Parce que j'étais jeune,
c'était tout simplement ça. Et comme j'étais conseiller donc aux affaires politiques, donc tout ce qui est la Syrie, le Mali à l'époque, je gérais ces choses-là. Et mon directeur de cabinet à l'époque me dit, ton délit c'est d'être jeune, c'est un délit. Et j'ai trouvé cette phrase extrêmement dure, mais extrêmement vraie, et qui a entré carrément en résonance avec moi, ce que je vivais personnellement. Au bout de quelques mois après, pour certaines raisons, je suis parti dans un autre ministère, là aussi pour occuper le même poste.
Mais c'est vrai que les pouvoirs en général ont peur de la jeunesse. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui, ça remonte à il y a longtemps. Donc tout arrivée de jeune dans un lieu de pouvoir déstabilise les positions acquises. Donc il y a un réflexe absolu, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les cabinets ministériels ou n'importe quelle institution, pour dégager les jeunes. Il y a une dimension supplémentaire, et c'est ça qui fait l'actualité du problème. C'est évidemment cette crise de 2007-2008, où tout d'un coup, l'impression que un système global, financier, de domination, s'en sortira toujours, et que tout le jeu démocratique derrière n'est que paravent. Donc, et là, c'est extrêmement difficile d'avoir prise là-dessus. Je suis sidéré du nombre de jeunes qui me disent « prouve-moi que la France est une démocratie ».
Des jeunes qui, par ailleurs, ne sont pas du tout contre la globalisation quand il s'agit de consommer, de discuter avec des jeunes à l'autre bout de la planète, qui sont nés dans cette culture-là.
Ah, mais même au contraire, c'est une génération 10 fois plus progressiste que les adultes, donc c'est aussi ça la cassure générationnelle, qu'ils ne se reconnaissent pas du tout.
Mais comment se positionner entre la globalisation et le local? C'est aussi tout ce qui fait leur fragilité aussi à cette génération-là, ils ne savent pas très bien.
Je ne suis pas sûr que ce soit contradictoire pour eux. Par contre, ce qui est contradictoire, c'est de se retrouver avec des systèmes de pouvoir, de représentation ou de génération au-dessus, pour qui, eux, c'est le danger. Donc ça ne marche pas.
Alors est-ce qu'on a peur des jeunes parce que finalement, soi-même on a galéré, on aimerait bien qu'ils fassent leur preuve avant de l'ouvrir, ou est-ce qu'on a peur des jeunes tout simplement parce qu'on a peur de contre-propositions? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On vous attend.
33 1 84 22 71 71.
Soyez les bienvenus.
Nous accueillons Arthur qui nous appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Arthur.
Bonjour Emmanuel et bonjour auditeur.
33 ans, vous êtes encore un jeune pour les normes de la Banque mondiale.
Oui, ouais, j'ai 33 ans, donc je peux me considérer encore comme jeune.
Nous vous écoutons.
En fait, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le débat, et donc j'ai voulu soulever deux ou trois questions qui freinent aussi le long des jeux, notamment dans mon pays, en Côte d'Ivoire. La première des choses que je voulais mettre en évidence, c'est le fait qu'il n'y a pas assez d'espace pour les jeunes dans les partis classiques. Voilà, je prends un exemple. Les présidents des jeunes en moyenne d'âge, ils avaient jusqu'à pas longtemps plus de 40 ans. Et aujourd'hui, un jeune dans un parti politique, c'est essentiellement pour des missions de basse besogne. Faire mettre des bâches, mettre des chaises, jamais dans la construction. Et même quand il se propose à ce rôle, c'est pas possible. Voilà. Ouais. Deuxième chose,
sur l'âge et sur les mouvements de jeunes, on pourrait citer en contre-exemple la FESI, qui est un syndicat étudiant ultra puissant dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, mais il se trouve que les dirigeants de la FESI ont toujours aussi été historiquement assez âgés tout de même pour des étudiants.
Exactement, voilà, et ça n'a pas trop changé. L'actuel dirigeant, je pense que il a à peu près mon âge, si c'est pas plus, quoi. Voilà. Donc on ne peut pas vraiment parler de jeunesse. Et même si je pense quand même que finalement la FESI a été l'un des rares cadres d'expression des jeunes, mais un cadre syndical, pas forcément dans les partis politiques classiques, c'est très, très difficile d'avoir une place pour les jeunes dans l'expression, dans la construction, dans la réflexion depuis quelques années déjà. Pour exemple, il y a un des célèbres partis en Côte d'Ivoire, en ce moment, M. Parti en disant que les jeunes dans ce parti, c'est 50 ans. Voilà, donc vous imaginez un peu ce que ça peut faire. Deuxième chose, comme je le disais, il y a les thématiques qui sont abordées ne sont pas toutes les thématiques qui laissent la place à la jeunesse. Voilà, la question de l'école, la question de l'éducation, la question même de l'emploi des jeunes sont des questions. On a vraiment l'impression qu'elles sont reléguées au second plan pour des questions plus politiques, nationalité, étrangers, réconciliation, voire des constitutions. Voilà, donc tout ça peut expliquer le fait que, à mon avis, la jeunesse ne s'intéresse pas, on n'a pas la place qu'elle doit avoir dans le schéma politique en Côte d'Ivoire. Quoi.
En tout cas, bravo et merci pour votre intervention. Arthur, vous posez vraiment des points intéressants, à la fois ces jeunes relégués pour des basses besognes, d'ailleurs des plus inintéressantes aux plus dangereuses dans certains pays, et puis surtout l'absence de thématiques qui concernent la jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez, Léonore de Roquefeuille?
Sur ce qui concerne par exemple les basses besognes qu'on fait faire aux jeunes qui intègrent un parti ou un syndicat, etc. En fait, c'est toujours la même chose, il faut prendre du recul. Pourquoi est-ce que ces jeunes sont une minorité? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vieux. Et pourquoi est-ce qu'il y a encore... pourquoi est-ce que ces vieux sont toujours là depuis 20, 30, ou il disait 26 ans, je ne sais pas, au pouvoir. C'est toujours la même chose. Il faut prendre le regard en disant le prisme de la façon dont on fait de la politique aujourd'hui. On a aujourd'hui une génération qui fait de la politique sa vie. Donc, effectivement, il n'y a pas de place pour des nouveaux entrants parce qu'on a ceux qui sont en cours, qui cumulent des mandats dans le temps de façon très durable. Donc, il y a quand même le fait de se dire, voilà, on a besoin d'une réforme politique. Et d'ailleurs, la jeunesse française appelle cette réforme à la fois... parce que nous, on a fait un tour de France. On allait voir des jeunes dans toute la France de 18-35 ans. Et la première chose qui est venue, c'est 1. La reconnaissance du vote blanc. Et 2. Le non-cumul des mandats.
Il y a un vrai militantisme des jeunes pour la reconnaissance du vote blanc.
Tout à fait. Mais donc, ça veut dire qu'on a une vraie envie de réforme politique, de changer le système. Ensuite, j'ai oublié ce que je voulais dire.
Amidou Anne.
Ouais, enfin, moi, il m'a fait sourire le leader parce que c'est une problématique que je rencontre au quotidien, des gens qui ont 46, 47 ans, 48 ans, mais qui dirigent quand même les mouvements des jeunes, des partis, parfois depuis 10 ans, 15 ans. Et on crée finalement, parce que dans les partis, c'est ça.
D'autant plus absurde dans un pays comme le Sénégal, un continent particulièrement jeune,
c'est
le
absolument
plus jeune
absurde.
Continent du monde.
Parce qu'en fait, il y a des cases, il y a le mouvement dans les partis, c'est classique. Tu as le bureau politique qui décide de tout et finalement de rien. Et tu as le mouvement des femmes, le mouvement des jeunes. Le mouvement des jeunes, souvent, c'est là où on crée des apparatchiks qui dirigent ces mouvements-là, alors qu'ils ont 48, 49 ans, parce que c'est un poste où tu es sûr d'être investi sur une position éligible, en fait, aux prochaines élections, soit locales, soit législatives. Mais ce que je voudrais appeler l'attention de nos auditeurs sur tout ça. Est un intrant à la démobilisation, au découragement, etc., et à la colère. Mais pour moi, la colère est un moyen de construire quelque chose. La colère est un socle pour construire une alternative, parce qu'aujourd'hui, tu l'as répété plusieurs fois, la majorité de la population africaine est jeune, mais ne se retrouve dans aucun parti, dans aucune offre politique, dans aucune... Alors, l'alternative est possible, et pour moi, il ne faut pas rester juste dans la contestation vaine et stérile, etc. Et
avec techniquement, elle est possible avec la démocratie numérique, mais qu'est-ce qu'il en sort, finalement, pour le moment?
C'est un problème. Là, vous posez le problème du numérique. Il n'y a rien qui fait plus peur dans une entreprise que de voir arriver des jeunes, parce qu'eux maîtrisent cet outil.
Enfin, dans une entreprise, quand il s'agit que les jeunes fassent gagner de l'argent à l'entreprise grâce au numérique, ça fait moins peur déjà.
Non, mais après, c'est une organisation à penser, mais c'est justement ça qui fait peur. Voilà, et c'est donc... quelle est la représentation du jeune? D'un côté, c'est le numérique, il maîtrise des trucs que nous, on ne sait pas, oh là 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 là, au secours, il faut se remettre en question. Et à côté de ça, une représentation médiatique, qui est laquelle? Un jeune au journal de 20h, il a une casquette et une capuche et il fait peur. Ou alors, après 20h, il est dans la télé-réalité, c'est un gros débile. Donc, on n'a aucune raison de faire confiance à ça.
Et donc, c'est pareil dans de nombreux pays, d'ailleurs.
Si on est au-delà même des cercles de pouvoir, quel est le réflexe de tout parent? Tout parent, aujourd'hui, se dit « je dois protéger mes enfants ». Et je dois me protéger des autres jeunes. Et donc, c'est là où on est dans quelque chose qui est beaucoup plus lourd que simplement un problème politique.
Alors justement, je crois qu'on a un parent au téléphone. Bonjour Tiburce.
Bonjour Emmanuel, bonjour à vos invités.
Vous êtes en direct de Libreville, vous souhaitez nous parler de la politisation ou pas de votre fils de 17 ans ?
Ah oui, je voulais dire en principe que comme vos invités l'ont dit, il y a un désintéressement véritable des jeunes. Mais je dois dire si le désintéressement est évident, il faut de plus en plus amener les jeunes très tôt vers les questions politiques, la critique des questions politiques. Et moi, j'ai une expérience avec mon enfant de 17 ans, déjà très jeune. Je l'ai amené à avoir ce regard critique devant tout ce qui est chose politique. Mm. Parce que moi, je me suis engagé de 20 ans. Là, j'ai 42 ans et ça fait près de 20 ans que je milite dans un parti politique de l'opposition et qui a une moyenne d'âge de 30 ans. Mm. Voilà.
Merci.
Les jeunes ne se désintéressent pas de la politique.
Non, mais ça, je crois qu'on l'a bien compris. Ouais. Hein. Merci Tiburce de nous avoir appelé. Alors, on a beaucoup parlé du militantisme ou pas des jeunes, mais ceci dit, on peut s'intéresser à la politique sans avoir envie d'être militant. Mais à quelles conditions, puisque c'est le mot de la fin et vous aurez une phrase chacun pour conclure, à quelles conditions les jeunes pourraient être entendus, en tout cas par la politique, l'intérêt public à Midouane?
Alors, et ça tombe bien parce qu'avec des amis, on s'est dit, voilà, le désintérêt, le mépris, etc., c'est pas quelque chose d'important ni de fondateur. Alors, on a décidé, avant cet été, on publiera un ouvrage collectif qui s'appellera « Politisez-vous ». Donc, l'idée, c'est pas seulement de demander aux gens d'aller militer dans les partis. Tout le monde ne peut pas être militant. Moi-même, je suis pas militant dans un parti politique, mais de s'intéresser à l'espace public, aux rapports de force et aux enjeux de construction d'une alternative politique.
Donc, cette injonction, ça sera pour les jeunes, « Politisez-vous ».
Oui, voilà. Et voilà, l'idée de construire une alternative autre, progressiste et voilà.
Éléonore de Roquefeuille.
Bah, c'est assez similaire, mais pour le coup, c'est en France qu'on le fait. Nous, on utilise pour le coup le numérique en se disant, voilà, c'est quand même un outil qui nous permet de toucher beaucoup de gens d'un coup et qui permet de mobiliser à grande échelle. Mais en fait, pour pouvoir bien se mobiliser, il faut avoir l'impression d'être bien informé. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut agir.
Christophe Nick.
Reste un paradoxe étonnant. La France, et la jeunesse française est celle qui désire le plus s'engager de toute l'Europe, mais c'est celle qui s'engage le moins.
Et qui critique le plus.
Parce qu'elle ne
sait
pas comment faire.
À vous
non,
tous.
Si, non, mais association culturelle.
Demain,
tout,
7 milliards de voisins, les décharges à ciel ouvert dans les villes du Sud. Peut-on en finir avec le casse-tête des ordures ?